Apocalypse avec un point d'interrogation. Oui, je l'ai mis. Est-ce que c'est l'Apocalypse maintenant? Nous avons vu pas mal de choses. Et je me demandais comment j'allais faire, j'avais envie de poursuivre la série, mais comment faire le lien avec le culte de rentrée de l'Église. Ça me semblait un peu difficile, mais j'ai pas hésité trop longtemps, parce que le texte de l'Apocalypse, des premiers chapitres, le fait lui-même. Le lien entre l'Apocalypse et les églises. On a au chapitre 1, verset 7, ce que l'Esprit, que celui qui a des oreilles entende, ce que l'Esprit dit aux églises. L'Apocalypse s'adresse directement aux églises, au verset 7. On parle d'église et ça commence les lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Ça peut être une bonne question pour le Trivial Poursuite. Quelles sont ces sept églises de l'Apocalypse? Éphèse, Laodicée, Philadelphia, Thyatire, Smyrne, Sardes, et il m'en manque une, je vous laisse deviner. Et l'Apocalypse commence par des lettres à des églises locales, à des églises connues, des petites églises locales comme la nôtre. Et c'est étonnant que dans ce livre de l'Apocalypse, qui est une révélation, un dévoilement, et non pas une catastrophe, hein, comme on l'a dit il y a trois semaines, Apocalypse veut dire dévoilement, révélation, que étonnant que Jésus ait voulu mettre l'église locale à l'honneur, comme si elle avait de l'importance aux yeux de Jésus. Comme si c'était son œuvre d'amour sur la terre. Comme si il était mort pour l'Église locale. C'est étrange, la place de l'Église dans le projet de Dieu, n'est-ce pas? Et on va lire Apocalypse 2, versets 1 à 7, série sur l'Apocalypse 2, l'Apocalypse en ville et dans la ville d'Éphèse. Alors on lit le texte à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres. » et qui ne le sont pas, et tu as décelé ceux qui mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors nous sommes à Éphèse. Alors Éphèse aujourd'hui c'est Hagia Sophia. Et il paraît que quand vous promenez à Hagia Sophia et que vous êtes sur les ruines d'Éphèse, vous êtes impressionné parce que c'est une énorme cité. Au premier siècle, 200 000 habitants. C'est énorme pour le premier siècle. 200 000 habitants, plus que Cannes. Avec l'aglo même, non? Je sais pas. 200 000 habitants. Le temple d'Artémis était 7 fois plus grand que le Parthénon à Athènes. Il y avait, on l'appelait la métropole suprême d'Asie, une grande ville, Éphèse. Un problème cependant à Éphèse, c'est son achèvement. Vous voyez, vous avez les sept villes de l'Apocalypse là, et vous avez Éphèse un petit peu en bas. C'est son port. Avant, Éphèse était un port dans un bras de mer, mais le bras de mer a été asséché par les roseaux. Et donc à Éphèse, on n'a plus accès à la mer. Éphèse n'est plus un port. Quand Paul veut voir les anciens qui sont à Éphèse, les responsables d'Éphèse, ils débarquent à Milet, quelques kilomètres de là. Éphèse n'est plus un port. Et c'est à cette ville-là, plus exactement à l'église dans cette ville, que l'Apocalypse va être adressé à elle et à six autres églises d'Asie. Et Jean, écrit, inspiré par Jésus, par l'Esprit de Jésus, écrit l'Apocalypse pour elle, pour ces églises qui lui sont chères, alors qu'il est à Patmos, à 70 kilomètres au large, sur une île, au large de la côte turque. Et il est là probablement en exil, il les connaît, ces églises le connaissent, et puis elles sont sept. Tiens, avec un parfum d'universalité, sept. Et pour toutes ces églises, il a comme un message qui lui est révélé dans une vision, et c'est Jésus-Christ qui lui parle, et Jean transmet le message, et à chaque fois, il s'agit d'un message particulier à ces sept églises, en rapport avec la situation de l'église. Elles reçoivent, en quelque sorte, comme un email de Dieu. Un mail from God at ephes.com. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais c'est pas à cause du Gmail. À destination d'Éphèse. Et c'est aussi un message adapté à notre situation. Et pas seulement à notre situation d'église, mais aussi à notre situation d'individu dans la ville et dans la vie. Parce que les messages de cette église sont universels pour toutes les églises et pour tous les chrétiens de ces églises. Ou pour tous ceux qui sont en cheminement par rapport à la foi. La phrase qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, qui revient en guise de conclusion, on l'a lu, pour chacune des sept lettres, est bien révélatrice. On parle du singulier de l'individu, celui qui a des oreilles. Alors les murs ont des oreilles, mais c'est autre chose aussi. Mais l'individu qui a des oreilles, aux églises. Donc il y a un passage entre le communautaire et l'individu qui est propre à la parole de Dieu. Il y a les deux, la communauté, mais aussi l'individu dans la communauté. Et ce message s'adresse aussi aux communautés, mais aussi à l'individu. Un message apocalyptique pour Éphèse, un message apocalyptique aussi pour toi, qui est venu ce matin. Un email de Dieu. Alors, vous l'avez entendu à la lecture, il y a quelques symboles à éclaircir, mais ici c'est relativement facile, parce qu'on a déjà parlé des symboles il y a trois semaines, puisque Jean en donne l'explication de ces symboles. Le chandelier, c'est l'Église. Les chandeliers, c'est l'Église. Sept chandeliers pour cette Église. Un chandelier qui est censé apporter la lumière autour de lui, de faire la lumière, ou tout simplement d'être témoin de cette lumière dans le monde. Et c'est bien le rôle de l'Église. Jésus va dire à un moment, que dans son sermon sur la montagne, que votre lumière brille dans les ténèbres. C'est le rôle de l'Église, et puis de chaque chrétien également, de briller comme une petite lumière dans le monde. Être des témoins. Nous sommes des chandeliers. Et les étoiles sont les anges de chaque église, à qui sont adressées chacune des lettres. On a pensé que l'ange, dans les commentaires, pourrait être le responsable de l'église, l'épiscopos, l'évêque. Mais tous ne sont pas des anges, les responsables de l'église. On a aussi penser que l'ange était comme une personnification dans le monde céleste de l'Église. Et c'est à lui, à cet ange, à l'Église, que va être adressé le message. Plus important, c'est de savoir que Jésus tient les étoiles dans sa main droite. Que Jésus tient les étoiles dans sa main droite. Cette expression témoigne de l'autorité de Jésus sur les églises, mais aussi de toute son affection pour l'église. Je te tiens dans ma main. Comme le dit le prophète dans le Deutéronome, tous ses enfants sont dans ta main. Il les serre dans sa main. Il prend soin de ses églises et de ses gens dans l'église. Personne ne pourra les ravir de cette main-là. De la main de Dieu. De même, pour l'expression « il marche au milieu des sept chandeliers », cet homme, et là je vous parle du chapitre 1, dont les yeux étaient comme des flammes de feu, marche au milieu de ces églises. Et il semble bien que la lumière des chandeliers, ou que la lumière des étoiles vienne de lui seul, de cet homme qui marche et qui est lumineux au milieu de ces églises. La lumière vient de lui pour les étoiles et pour les chandeliers. Comme le souverain sacrificateur à l'époque du temple surveillait la flamme du chandelier dans le tabernacle, Jésus se tient au milieu de ces chandeliers pour les éclairer de sa lumière, pour les soutenir dans leur témoignage. Jésus, le centre lumineux de son Église. Alors, on pourrait avoir peur de la description de cet homme qui marche avec les cheveux blancs, avec une tête remplie de cheveux blancs comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds comme du bronze rougi par le feu, qui parle avec une voix qui ressemble au bruit du torrent. L'évocation de Jésus, vous pourriez relire le chapitre 1 chez vous, est puissante. Et on ose s'imaginer s'il lâchait une des étoiles de sa main, ou s'il déplaçait un chandelier. Mais quand il s'adresse à l'Église, il lui parle avec des mots qui apaisent et qui donnent confiance. « Je connais tes œuvres », dit-il à l'Église d'Éphèse. Des mots tellement puissants, deux mots tellement puissants, « Je connais », ou trois mots, « Je te connais ». Je te connais vraiment. Je te connais, l'Église, et toi en particulier, mieux que ta mère, mieux que ton époux, que ton épouse. Je te connais comme personne d'autre. Je sais tout de toi. Et c'est pas une connaissance, savoir tout de soi, ou que quelqu'un connaisse tout de moi pourrait me faire peur, pourrait me gêner, mais cette connaissance, Jésus ne l'utilise jamais contre nous. Il l'utilise pour nous, en notre faveur. Et je me souviens de la Samaritaine, de l'épisode de la Samaritaine, où la Samaritaine revient de sa rencontre avec Jésus au village, et elle dit, il savait tout de moi. Il sait tout de moi. Et elle semblait soulagée, et elle semblait libérée. La connaissance qu'a Jésus de nous, nous libère, nous apaise. Il sait tout de moi, de mes qualités peut-être, certainement, mais aussi de mes faiblesses, de mes faux fuyants, de mes raccourcis. Cette femme qui avait bien des choses à cacher est repartie heureuse de cette rencontre avec Jésus, l'homme qui marche parmi les hommes. Alors pour les chandeliers d'Éphèse, Jésus connaît, verset 2-3, sa fidélité dans la foi. Ce sont des solides à Éphèse du point de vue de l'orthodoxie, de la saine doctrine. Ils ont éprouvé les faux apôtres, ils les ont testés, ils ont haï les Nicolaïtes. Alors les Nicolaïtes, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est une secte à la fois chrétienne et tellement païenne. En tout cas, ils ont pris leur distance par rapport à cette secte qui s'attaque à l'Évangile. Donc ils sont solides dans leur foi et dans leur doctrine, et c'est bien, il y a rien à dire, et ça compte. Mais là arrive cette phrase lourde de conséquences que tout le monde ou presque connaît. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on croirait entendre la conversation d'un couple. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu m'aimes moins qu'avant. Et on a envie de répondre que c'est normal, on peut pas toujours aimer de la même façon. Au début, il y a la passion, il y a le romantisme, on est jeune, et puis ça change avec le temps. Moi, j'aime bien parler d'amour-tendresse après. Et c'est vrai que l'amour peut prendre des expressions différentes en fonction du temps. Il évolue, il s'exprime différemment, mais cela ne devrait pas toucher la qualité de l'amour. Et Jésus fait partie des gens qui pensent que l'amour peut durer. Et à Éphèse, ça semble pas être le cas. Alors, on peut s'imaginer l'effet dévastateur de cette phrase. Vous savez que la Bible était lue, enfin les lettres étaient lues dans les églises naissantes, et on imagine à Éphèse, quand on leur lit le chapitre 2 de l'Apocalypse, l'effet que ça a sur les gens qui entendent la lecture de cette lettre pour eux. On imagine l'incompréhension de certains, la révolte de l'autre, le déni ou la relativisation de l'autre. Certains se désolidarisent peut-être de l'église d'Éphèse. Ils disent « moi je suis juste un visiteur, je ne fais pas partie de cette église qui a perdu son premier amour ». Et on imagine qu'ils se regardent les uns les autres et qu'ils vont en parler des semaines et des semaines. Qu'est-ce que Jean a voulu dire? Qu'est-ce que Jean a voulu nous dire? Qu'est-ce que Jean et Jésus veulent te dire? Comment cette phrase résonne en nous? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors nous avons trois mots pour essayer de cerner le problème. Nous avons un substantif, un adjectif et un verbe. On a un mot, l'amour. L'amour, l'agapé, non pas l'éros, l'amour romantico-érotique, non pas le philos, l'amour plus amitié ou la philadelphia, mais l'amour agapé qui n'attend rien en retour, l'amour grâce. L'amour pour Dieu, l'amour mais comme un prisme traversé par la lumière, part dans d'autres directions, l'amour de Dieu qui passe par notre prisme et qui va vers les autres, l'amour des autres, du plus proche prochain jusqu'au plus lointain prochain, l'amour pour le prochain. L'amour du prochain, indissociable, inséparable de l'amour de Dieu, comme dit Jean dans ses épîtres, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Un amour pour Dieu et pour les autres qui n'est plus le même. Et j'ai trouvé un texte de Jérémie, le prophète, et qui en parlait, et qui en parlait bien. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Va à Jérusalem et crie à ses oreilles, voici ce que déclare l'Éternel, je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte, car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel. » Comme les prémices d'une récolte. Il y avait de belles promesses, il y avait du bon potentiel, mais voilà, tu ne m'aimes plus comme au temps des fiançailles. C'est l'amour en berne, l'amour à sec, l'amour réduit à une peau de chagrin. Et puis il y a un deuxième mot, un adjectif premier, protos en grec, qui renvoie au commencement, au début, primordial, prioritaire, ce qui a la primeur, ce qui était au début de l'église d'Éphèse, au début de la nouvelle vie de chaque individu de l'église d'Éphèse, quand ils brûlaient tous leurs livres de magie et de sorcellerie. On le voit dans le livre des Actes, les chrétiens d'Éphèse brûlent tout, les livres de magie et de sorcellerie en tout cas, et tant leur cœur brûlait pour Dieu, ou quand pendant 3 ans, à Éphèse, Paul enseignait dans l'institut biblique, dans la maison de Tyrannus, dans le premier institut qui soit, et que ça rayonnait dans toute l'Asie, ou encore au tout début quand Aquilas et Priscille, surtout Priscille d'ailleurs, on dit souvent 5 fois sur 7, je crois, Priscille et Aquilas enseignaient à Éphèse, ou quand Apollos aussi, avec sa vigueur qui lui était propre, enseignait à Éphèse. Ça, c'était les débuts de l'église d'Éphèse. Quand on avait la pêche, quand on avait la niaque, quand on avait l'amour, quand on avait l'amour pour Dieu et pour le prochain des premiers temps. Un verbe aussi, abandonner son premier amour, qui peut se traduire aussi par négliger, laisser aller, quitter, laisser derrière soi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé derrière toi ton premier amour. Tu as négligé l'amour des premiers temps. Alors il s'agit d'un processus conscient, voire même volontaire, ou non. Le verbe ne le dit pas. Il est difficile d'imaginer que l'on puisse perdre volontairement et consciemment l'amour des débuts. Personne ne se dit « non, je ne vais plus aimer comme avant, j'arrête ». Cependant, la responsabilité de l'individu dans l'abandon du premier amour n'est pas pour autant tout à fait dégagée, et on retrouve ce sens de quand même une certaine responsabilité dans le sens de négliger. Alors comment cela a-t-il pu se passer? Comment peut-on perdre ou abandonner son premier amour? Et je reprends la première histoire, enfin l'histoire que j'ai racontée. Vous savez, les roseaux qui ont envahi le bras de mer et qui a desséché le bras de mer et qui a fait qu'Éphèse n'est plus un port au bord de la mer avec de l'eau. Et j'imagine que les roseaux ont pu envahir progressivement le détroit là. Voilà les roseaux qui sont venus comme dessécher l'amour. Alors je cite quelques roseaux. Le roseau de l'autosatisfaction, le roseau de l'insatisfaction, le roseau du murmure et de la plainte, le roseau de l'indifférence, le roseau de la multiplication des préoccupations matérielles, le roseau de l'inquiétude, le roseau de l'endurcissement intérieur, le roseau de la fermeture, le roseau du repli sur soi, et osons le dire, le roseau aussi du péché, du mal personnel. J'aime cette expression de l'Épître aux Hébreux, le péché qui m'environne si facilement. Moi, je le paraphrase en disant, ce péché qui me colle à la peau et qui dessèche mon amour, mon premier amour, et qui pousse comme un roseau. Et chacun pourra trouver son roseau, ces roseaux qui viennent assécher son canal, le canal de son premier amour, de son amour primordial, de ces roseaux qui viennent en douce, ou plutôt en force, étouffer la vie de Christ, la vie de Dieu en nous. Alors une question, quel avenir pour l'Église d'Éphèse ? Et pour tous ceux qui lui ressemblent et qui ont l'impression de faire un peu dans le vide, sans l'amour, y aurait-il une solution, une feuille de route? Alors, est-ce qu'il s'agit d'entretenir une nostalgie? Oh, c'était mieux avant. Quand on était jeune, on faisait ceci ou on faisait cela. C'est plus comme avant. Ce genre de phrase qui énerve les jeunes, et ils ont raison d'être énervés, et qui vieillissent prématurément ceux qui la prononcent. Le texte, c'est vrai, appelle en quelque sorte au souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et l'accent n'est pas tant sur le souvenir que sur le lieu où ils étaient, le terrain où ils se trouvaient. Souviens-toi du lieu, de l'endroit où tu étais. Et où ils étaient, ces chrétiens d'Éphèse? Ils étaient, et là je cite un texte de l'Épître de Paul aux Éphésiens, ils étaient assis dans les lieux célestes, ressuscités avec le Christ, et je crois que j'ai le texte, oui, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, j'étais haut, nous sommes haut, ressuscités dans les lieux célestes, souviens-toi d'où tu es tombé, si nous étions ressuscités dans les lieux célestes, la chute est lourde, mais nous étions en Christ. Se souvenir, non pas pour retourner dans le passé, non pas pour embellir le passé, non pas pour tomber dans une certaine nostalgie, non pas pour s'y complaire dans le passé en négligeant le présent et l'avenir, non, se souvenir pour changer, pour se repentir. Repens-toi, verset 5, et pratique tes premières œuvres, celles qui étaient motivées par l'amour. Et on a le verbe pour se convertir, la métanoéo, c'est-à-dire changer radicalement, comme le traduit la Bible à la semeur. Abandonner ce jour et dire avec une nuance de regret dans métanoéo, si j'avais su, j'aurais pas venu, comme on disait dans la guerre des boutons. Je regrette d'avoir abandonné ce premier amour, d'avoir laissé ces roseaux assécher mon canal d'amour. Je veux changer de direction et retrouver le terrain de ce premier amour. Je suis prêt à faire une halte, un détour même, perdre du temps, voire même de l'argent, pour retrouver cette position en Christ. Laisser la course au succès, à la reconnaissance, à la sécurité de la vie, et retrouver cet endroit que j'ai laissé. Changer, se repentir, retourner. Et il y a, pour terminer, une belle histoire dans l'histoire d'Abraham, dans Genèse 13, 2. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Négev. D'étape en étape, il retourna au Négev, jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Alors l'eau a coulé sous les ponts depuis qu'Abraham a reçu les promesses et qu'il est parti du nord de la Mésopotamie pour arriver vers Canaan. Les promesses, je serai une bénédiction pour toi et pour ta famille et pour toutes les nations à travers toi. Abraham est un homme d'expérience avec des mauvaises expériences. On se souvient de cette expérience où il fait passer Sarah, sa femme, devant le pharaon pour sa sœur et qu'il la livre aux mains de Pharaon, et il le fait deux fois avec le Pharaon et avec Abimélec. Il y a des expériences négatives dans la vie d'Abraham, le grand patriarche, comme il y a des expériences difficiles dans notre vie. Et Abraham a besoin de retourner à Bethel. Il a besoin de retrouver la maison de Dieu, c'est le sens de Bethel. Il a besoin d'y revenir. Et le narrateur nous le dit avec un brin de connivence. Souvenez-vous, Bethel, c'était là où Abraham a rencontré Dieu la toute première fois. Personne ne lui avait demandé de le faire, mais Abraham revient à Bethel, à son autel. Alors, ressent-il le besoin, après l'Égypte, de revenir à son premier amour? On ne le sait pas. En tout cas, il veut retrouver cet endroit où il est en contact avec son Dieu et le terrain des promesses de Dieu. Retrouver la maison de Dieu. Retrouver le terrain des promesses de Dieu qu'il a pour chacun. Retrouver son premier amour. Un peu comme retrouver le terrain de jeu de son enfance. Moi, j'aime retrouver le terrain de jeu, la cour du 10 rue Saint-Honoré, où je jouais avec mon copain Hervé de Lafourcade de Ramonville de Saint-Martin de Ronsac, un noble, mais ruiné, qui ont vendu leur château au camembert président. Ils ne mangeaient plus de camembert président depuis. 9 enfants, et lui était le dernier de ces 9 enfants, c'était mon copain. Et on a joué des heures dans la cour. Et il y avait 2 bancs. Et je me souviens un jour, pendant 2 heures, on a joué à des alpinistes qui gravissaient l'Annapurna. C'était juste le banc. Il y avait une marche. Mais quand je vais à Fontainebleau, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais j'aime retourner dans cette cour et me souvenir de mon amitié forte avec Hervé de Lafourcade de Ramonville de Saint-Martin de Ronsac. Revenir pour remplir son canal à nouveau, pour redevenir un port fleurissant où les bateaux arrivent pour décharger leur cargaison, là où ils repartent les cales pleines pour alimenter d'autres ports, d'autres villes, d'autres nations. Et cet endroit vers lequel il nous faut revenir n'est peut-être pas loin, peut-être faut-il se déplacer géographiquement, ou peut-être qu'il s'agit simplement d'un voyage intérieur, que ce Bethel est tout près, dans une petite zone de votre cœur, de votre âme, de votre esprit. Et puis, il y a une promesse pour le vainqueur. L'arbre de vie, avec une allusion évidente au livre de la Genèse et au jardin d'Éden, et les images ne manqueront pas dans l'Apocalypse pour parler des promesses de Dieu pour le vainqueur. Mais ce vainqueur, ce n'est jamais le vainqueur d'un concours, d'un jeu, d'un combat, même pas d'un combat contre la bête immonde de l'Apocalypse. Le vainqueur, pour Jésus, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Celui qui continue et qui, parfois, malgré les retours ou les détours, reprend la route. Parce qu'avec Jésus, avoir perdu son premier amour, ce n'est pas une fatalité. Amen.